Chapitre 8 Les pensionnaires. Je vis encore bien des choses intéressantes pendant mon séjour à Notre-Dame-des-Neiges. En cette saison tardive, il n'y avait pas beaucoup de pensionnaires, et pourtant, je n'étais pas seul dans la partie du monastère destinée au public. Partie située près de la porte d'entrée, avec une petite salle à manger au rez-de-chaussée, et au premier étage, un corridor sur lequel donnaient des cellules semblables à la mienne. J'ai sottement oublié le prix de la pension pour un retraitant sérieux. C'était dans les 3 à 5 francs par jour, et je crois plutôt 3 que 5. Des visiteurs de passage, comme moi, peuvent donner ce qu'ils veulent à titre d'offrande volontaire, mais on ne leur demande jamais rien. Je dois dire que les 20 francs qu'à mon départ j'offris au père Michel lui parurent excessifs. J'expliquai pour quelles raisons je désirais les donner, même alors, par un curieux point d'honneur, il ne voulut pas les prendre lui-même. « Je n'ai pas le droit de refuser pour le monastère, me dit-il, mais je préfère que vous les donniez à un autre frère. » J'avais déjeuné seul, parce que j'étais arrivé tard, mais au dîner je trouvais 2 autres convives. L'un était un curé de campagne qui était arrivé le matin même de sa cure, située près de Mende, pour passer au couvent 3 ou 4 jours de solitude et de prière. C'était un vrai grenadier, avec le teint hâlé et les rides profondes d'un paysan. En l'entendant se plaindre de la gêne que lui avait causée sa soutane pendant la marche, je croyais le voir, avec sa haute stature osseuse et sa soutane relevée, cheminant à grandes enjambées à travers les montagnes du Gévaudan. L'autre était un homme grisonnant, petit et trapu, qui pouvait avoir de 40 à 50 ans. Il était vêtu d'une grosse vareuse sur un chandail, la boutonnière décorée d'un ruban rouge. C'était un homme difficile à classer, ancien militaire sorti du rang. Il s'était élevé au grade de commandant, et il avait encore certaines manières brusques rapportées des camps. Aussitôt sa démission acceptée, il était venu à Notre-Dame-des-Neiges comme pensionnaire, et après une courte expérience de la vie qu'on y menait, avait décidé d'y rester comme novice. Sa nouvelle existence commençait à modifier son aspect. Il avait déjà quelque chose de l'air calme et souriant des frères. Ce n'était plus un officier, et ce n'était pas encore un trappiste. Mais il participait du caractère de l'un et de l'autre. En tout cas, il était à un moment intéressant de sa vie. Sorti du bruit des canons et des clairons, il était sur le point de se fixer dans ce pays silencieux où l'on est déjà sur le seuil de la tombe, où les hommes couchent la nuit dans la robe de leur sépulcre et, comme des fantômes, ne communiquent que par signes. À souper, nous parlâmes politique. Je me fais un devoir, quand je suis en France, de prêcher la conciliation et la modération. Je citais l'exemple de la Pologne, comme les alarmistes en Angleterre citent celui de Carthage. Le prêtre et le commandant abondèrent dans mon sens et se lamentèrent sur l'âpreté des sentiments politiques du jour. « C'est vrai, remarquai-je, vous ne pouvez rien dire à un homme qui soit contraire à ses opinions sans le mettre hors de ses gonds. » Tous les deux déclarèrent qu'un tel état de choses était antichrétien. Alors que nous étions si bien d'accord, je ne sais comment je me surpris à parler en termes élogieux de la modération de Gambetta. Instantanément, la figure du vieux militaire s'empourpra. Il se mit à frapper la table de la paume de ses mains comme un enfant rageur. « Comment, monsieur » cria-t-il, « comment ? Gambetta, modéré ! Oserez-vous justifier cette opinion ?» Mais le prêtre n'avait pas oublié nos belles résolutions, et tout à coup, au plus fort de sa fureur, le vieux soldat rencontra fixé sur lui un regard significatif. Il mesura comme en un éclair l'absurdité de sa conduite. L'orage s'arrêta brusquement et il ne dit plus mot. Ce fut seulement le lendemain matin, vendredi 27 septembre, comme nous prenions notre café, que les deux hommes découvrirent que j'étais hérétique. Je leur avais sans doute donné le change en exprimant mon admiration pour la vie monastique. Une question directe me trahit. Le candide père Apollinaire et l'astucieux père Michel avaient tous deux fait preuve d'une grande modération, et le bon diacre irlandais, quand il a pris ma tare religieuse, s'était contenté de me frapper sur l'épaule en disant « Ah, il faut devenir catholique pour aller au ciel !» J'étais tombé maintenant sur des orthodoxes d'esprit bien différents, Ces deux hommes étaient amers, intransigeants et étroits d'idées comme les Écossais les plus puritains. Et sur mon âme, je crois bien qu'ils étaient pires encore. Le prêtre s'ébrouait comme un cheval de bataille. « Et vous prétendez mourir dans cette espèce de croyance » demanda-t-il. Il n'est pas au monde de caractère d'imprimerie assez gros pour rendre l'accent terrible de ses paroles. Je confessai humblement que je n'avais pas l'intention de changer. Mais il ne put prendre son parti d'une si monstrueuse conduite. « Non, non, s'écria-t-il, il faut en changer. Vous êtes venu ici, Dieu vous y a conduit et vous devez profiter de l'occasion. » Je fis une faute de tactique. J'invoquai les affections de famille. Peine perdue devant un prêtre et un soldat, deux classes d'hommes qui, par profession, ont rompu avec la douceur des liens du foyer. « Votre père et votre mère, s'écria le prêtre, eh bien, vous les convertirez à leur tour quand vous rentrerez chez vous. » Il me semblait voir la tête de mon père. J'aimerais mieux avoir à m'emparer du lion de Gétulie, dans sa propre tanière, que de m'embarquer dans une pareille entreprise contre le théologien de la famille. Maintenant, la chasse était commencée. Le prêtre et le soldat s'acharnaient à me convertir et l'œuvre de la propagation de la foi, pour laquelle les habitants du Chélard avaient souscrit 48 francs 10 centimes, était mise en branle contre moi. C'était un étrange prosélytisme, mais qui pouvait faire impression. Il ne cherchait point à me persuader par des arguments auxquels j'aurais pu opposer quelques défenses. Il tenait pour acquis que j'étais convaincu de la nécessité de cette conversion et me poussait à faire vite. « C'est maintenant, me disait-il, puisque Dieu vous a conduit à Notre-Dame-des-Neiges, c'est maintenant l'heure qu'il a choisie. Ne soyez pas retenu par une fausse honte, ajouta le prêtre pour m'encourager. Pour un homme qui met sur le même pied toutes les sectes religieuses et qui n'a jamais été capable de peser sérieusement devant l'éternité les mérites de telle ou telle croyance, encore qu'il puisse d'ailleurs en matière séculière y trouver à louer ou à blâmer, la situation était aussi imméritée que désagréable. Je commis une seconde faute de tact en alléguant que le résultat final était le même en somme et que nous allions tous par des voies différentes vers le même ami, vers le même père indulgent et bon. N'était-ce pas là le seul évangile, digne de ce nom, qui put apporter la paix aux âmes? Mais les opinions varient suivant les individus. Devant ces principes révolutionnaires, le prêtre me foudroya de toutes les menaces de sa doctrine. Il se lança dans des détails effrayants sur l'enfer. « Les damnés, dit-il, sur l'autorité d'un petit livre qu'il avait lu la semaine précédente, pour n'être pas à court d'arguments, il aurait aimé l'emporter dans sa poche en voyage. Les damnés devaient garder la même attitude pendant toute l'éternité au milieu de tortures effroyables. » Comme il dissertait ainsi, toute sa figure s'ennoblissait par l'enthousiasme. « C'est mon conseil comme ancien militaire, fit observer le commandant, et celui de monsieur comme prêtre. « Oui, ajouta le curé sentencieusement, en approuvant d'un signe de tête. « Comme ancien militaire et comme prêtre. » À cet instant, alors que j'étais quelque peu embarrassé pour répondre, un des moines survint, un petit homme brun, vif comme une anguille, avec un accent italien, qui se lança tout de suite dans la conversation, mais d'une façon plus douce et plus insinuante, ainsi qu'il convenait à l'un de ces aimables religieux. « Je n'avais qu'à le regarder, disait-il. La règle était dure, il aurait bien aimé rester dans sa patrie, l'Italie. » Tout le monde sait combien elle est belle, cette Italie, mais il n'y avait pas de trappiste en Italie, et il avait, lui, une âme à sauver. Voilà pourquoi il était là. Un joyeux critique hindou m'a qualifié un jour d'hédoniste musard. Je crains que ce ne soit vrai, au fond, car l'exposé des mobiles de ce moine me porta un coup. J'aurais préféré croire qu'il avait choisi ce genre de vie pour sa propre satisfaction, et non en vue de l'éternité. Ceci montre combien j'étais loin de comprendre la mentalité de ces bons trappistes, alors même que je m'y efforçais de mon mieux. Mais le curé trouva l'argument décisif. « Écoutez ça » s'écria-t-il. « Et j'ai vu ici un marquis, un marquis, un marquis !» Il répéta trois fois ce mot magique. « Et d'autres personnes, haut placées dans la société, et des généraux. Et là, à côté de vous, un ancien militaire décoré. Le voilà en ce lieu, prêt à se consacrer à Dieu. » J'avais fini par être si embarrassé que je prétendis avoir froid aux pieds et m'échappai de la salle. Le vent soufflait violemment, le ciel était moins couvert et par intervalles, le soleil brillait avec éclat. J'errais jusqu'au dîner dans la contrée sauvage, rudement secoué et battu par la bourrasque, mais récompensé par la vue de quelques beaux paysages. À dîner, l'œuvre de la propagation de la foi recommença, et d'une façon qui me fut encore plus désagréable. Le prêtre me posa de nombreuses questions relativement aux méprisables croyances de mes pères et accueillit mes réponses avec une sorte de ricanement ecclésiastique. « Votre secte, me dit-il une fois, car vous admettez, je pense, que ce serait lui faire trop d'honneur que de l'appeler une religion. Comme il vous plaira, monsieur, dis-je, la parole est à vous. » Je finis par être agacé au-delà des limites de la patience. Il se trouvait en quelque sorte chez lui, et puis c'était un vieillard, et il avait droit à mon indulgence. Cependant, je ne pus m'empêcher de protester contre ce procédé peu courtois. Il en fut péniblement décontenancé. « Je vous assure, dit-il, que dans mon cœur, je n'ai aucune envie de rire. Je n'ai pas d'autre pensée que l'intérêt de votre âme. » Ainsi se termina ma conversion. Le brave homme. Il n'était pas de ces gens qui cherchent à vous en faire accroire. Ce n'était qu'un bon curé de campagne, plein de zèle et de foi. Puisse-t-il longtemps courir le Gévaudan, en soutane, avec la force qu'il lui faut pour faire de longues marches et pour réconforter ses paroissiens au moment de la mort. Je suis certain qu'il lutterait bravement contre une tempête de neige pour aller où son devoir l'appellerait. Mais ce n'est pas toujours le croyant le plus convaincu qui est l'apôtre le plus adroit. »